اوكي، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 22 dans l'explication du livre de Sharh Manzumat al-Adab al-Shar'iyya, donc l'explication de l'éthique et des règles morales de l'islam et de la charia. Donc on est toujours dans le chapitre au sujet de l'interdiction des instruments de musique et des choses qui ont des règles qui ont rapport avec yani, on avait mentionné aussi la musique, les chants et la poésie ou les poèmes. Donc les poèmes, on n'en a pas encore parlé vraiment, mais on va en parler inshallah. La règle, elle n'est pas compliquée par rapport au poème. C'est comme la parole en réalité. Ce qui est permis de la parole, c'est permis des poèmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as le droit de dire en parole? Ben, en poésie, c'est permis de le dire. Mais si ce que tu dis, c'est des choses haram ou des choses qui sont interdite ou contraire à l'islam, alors dans ce cas-là, c'est interdit en poème aussi. Donc, c'est pas compliqué, mais yani, on va y revenir là-dessus, inshallah. Le cheikh, l'imam al-Mardawi, Muhammad ibn Abdul Qawi al-Mardawi, rahimahullah, il dit ensuite dans ce chapitre: ولو لم يقارنها غناء جميعها فمنها ذو الأوتار دون تقيد وحذر الغنى الأكثرون قضوا به عن أبوي بكر إمام مقتدي. Donc, le cheikh, il continue dans l'explication de ce qu'on avait dit au dernier cours par rapport aux instruments de musique. Et on a mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit les instruments de musique, que ce soit des instruments à vent, comme les flûtes, ou les trompettes, ou les saxophones, ou peu importe. Et les instruments à cordes, hein, comme les guitares, les pianos, les violons, hein, tous ces trucs-là, et les instruments à percussion, hein, comme les tambours et les bongos, n'importe quel autre style de tambour. Et la seule chose qui avait été mentionnée comme exception à ce sujet, c'était le dof. On a expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis aux femmes d'utiliser le dof, de frapper le dof lors des mariages pour faire savoir aux gens qu'il y a un mariage. Donc les femmes entre elles, dans la fête, elles tapent le dof et puis elles peuvent chanter des chants traditionnels pour yani, annoncer le mariage. Et on a expliqué qu'en dehors de ça, il n'y a rien d'autre comme instrument qui est permis. Donc c'est seulement le douf. Et le douf, on a dit, c'est comme un genre de cerceau avec une peau tendue dessus. Et on le frappe et ça fait un son. Et à condition, comme le cheikh l'a mentionné, à condition qu'il n'y a pas de cymbales autour. Parce qu'il y a les dofs avec des cymbales dessus. Ouais, c'est comme des petites plaques de métal. Quand tu le frappes, le dof, avec les cymbales, ça fait un petit bruit, tch, 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 comme ça. Donc ça, c'est pas permis. Mais s'il n'y a pas de cymbales, c'est permis. Et c'est seulement pour les femmes. Ça veut dire que les hommes, ils n'ont pas le droit de taper le dof. C'est seulement pour les femmes entre elles. Ça, on a mentionné. Maintenant, il dit: « Walau lam yuqarinha rina'un jami'aha, فمنها ذو الأوتار دون تقيد. Donc il dit que ces choses-là sont interdites, même s'il n'y a pas de chants qui sont accompagnés avec cette musique-là. Donc ça veut dire même si c'est de la musique instrumentale, comme ils disent, comme la musique classique. Hein, les Koufars, ils disent que la musique classique, c'est la musique qui élève l'âme. Hein. Je me rappelle quand j'étais au cégep et les professeurs, j'avais pris un cours de philosophie ou bien un cours de philosophie, ils parlaient de la philosophie de la culture. Et puis dedans, ils disaient, il y a les musiques. Les musiques de la culture élevée et la musique de la culture basse. La culture élevée, elle s'adresse au corps à partir de la taille jusqu'en haut. C'est la musique classique et des choses comme ça. La musique basse, elle s'adresse au corps de la taille jusqu'aux pieds. Et là, il dit ça, c'est les autres musiques, je ne sais pas quoi. Comme s'ils veulent montrer la supériorité de la musique européenne ou la musique classique sur les autres musiques. Et que les autres musiques sont plus, attirent plus ou parlent plus, s'adressent plus au sens bestial de l'être humain. Tandis que la musique classique, c'est plus célébral. À la kulli hal, tout ça, c'est haram. Yani dans tous les sens. Bon, le chant, on va en parler, inshallah. Mais on va aller qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan il dit là-dessus. Il dit wa tut laf walaw lam yuqarin hadhihi al-alat aghani li'annaha mu'addatun lil aghani fa hiya adawat shar fa yajib 'ala al-muhtasibin wal-wulat والأمراء إتلافها أما إذا كان معها أغاني فهذا منكر آخر الغنى سيأتي حكمه وقد يكون الغنى مع الآلات وقد يكون بدون آلات وهذا يأتي حكمه إن شاء الله. Donc le cheikh il explique que ces instruments de musique doivent être détruits, brisés. Parce qu'elles sont faites, yani, à la base pour être accompagnées de chants. En général, quand les gens font de la musique, c'est pour être accompagnés de chants. Mais le cheikh, il dit, même s'ils ne sont pas accompagnés de chants, c'est quand même haram. Et il faut les briser, il faut les détruire, ces instruments-là. Parce que ce sont des instruments qui amènent du mal, qui éloignent du rappel d'Allah, et qui appellent à la perversité. Hein? Donc, il est obligatoire pour les gens qui sont dans Al-Hisba, Al-Muhtasibin. Al-Hisba, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et comme j'ai expliqué au dernier cours et dans les cours précédents, dans les pays musulmans, dans le passé, il y avait qu'est-ce qu'on appelle Al-Hisba. Et même que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a un livre qu'il a écrit qui s'appelle Al-Hisba. Et Al-Hisba, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et c'est en général des gens que le dirigeant a chargé d'ordonner le bien et d'interdire le mal dans la société. Donc c'est comme une genre de police, Al-Hisba. C'est comme une genre de police. Et eux, ils ont une autorité légale que le dirigeant leur donne pour travailler en collaboration avec les policiers dans le but d'ordonner le bien et d'interdire le mal dans la société. Et ça, il y en avait une police comme ça en Arabie Saoudite et elle ordonne les gens, par exemple, quand c'est l'heure de la salat, de fermer les magasins. Et ceux qui retardent dans la fermeture des magasins, ils leur donnent des amendes ou des choses comme ça. Il cherche dans la société s'il y a des gens qui organisent des crimes, organisent des péchés, des choses haram, de l'alcool, de la prostitution, ou bien des choses mauvaises. Eux, ils viennent, ils enlèvent ça. Si des magasins qui vendent des choses qui sont interdites, Il vient dans les marchés, il regarde, il vérifie toutes les choses pour qu'il n'y ait rien de qui soit haram. Et ainsi de suite. Donc, eux, par exemple, s'ils vont trouver des gens qui vendent ces instruments de musique-là, eh bien, ils vont les confisquer, ils vont les détruire. Bien entendu, ça, c'est avec l'autorité du dirigeant et le gouverneur qu'on a le droit de faire ce genre de choses. Parce que sinon, comme on l'a expliqué au dernier cours, si quelqu'un se donnait à lui-même l'autorité de faire ça sans avoir disons, de pouvoir pour le faire, ça risquerait de dégénérer en quelque chose de pas bien, tu vois. Ça risque de créer plus de problèmes. Et le cheikh, il explique ensuite que si il y a de la musique, s'il y a des chants qui accompagnent cette musique, alors dans ce cas-là, c'est un autre mal. C'est un autre mal. Parce que en arabe, même le mot musiqa, ça vient pas de l'arabe. C'est un mot étranger. Et le mot rina, c'est le mot qui est utilisé pour le chant. Le rina. D'accord? Et donc, al-rina'u, c'est le chant. Et il dit, le jugement ou le verdict à propos du chant, ça, il va venir, on va en parler plus tard. Hein? Donc, c'est possible que le chant soit accompagné d'instruments de musique, et c'est possible que le chant soit sans instruments de musique, et ça, on va en parler plus tard. Donc, le jugement, le cheikh, il va expliquer ça dans les points qui vont suivre. Il dit ensuite, وحظر الغنى الأكثرون قضوا به وعن أبوي بكر إمام مقتدي إباحته لا كرهه وأباحه الإمام أبو يعلى مع الكره فأنشدي. Donc ici, il explique maintenant le fait que la majorité des ulama, ils ont interdit, ils ont jugé et décrété que yani, la musique, c'est haram. Bon, c'est là qu'il va parler de ça. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, rahimahullah, hafidhahullah, il dit, تقدم قول الناظم وشرحه في موضوع آلات اللهو وما يلحق بها والآن انتقل إلى حكم الغنى. Donc c'est maintenant qu'il va parler du chant. C'est quoi le jugement? وذكر أن بعض الحنابلة لهم فيه ثلاثة أقوال. القول الأول تحريمه مطلقا لأنه لهو وفيه شغل عن ذكر الله عز وجل لقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله وهو الحديث ولهو الحديث هو الغناء فقد فسرت الآية بأن المراد به الغناء وأن من الناس من يأخذه بدلا من القرآن ويتلهى به ويتلذذ به وينشغل به فتوعدهم الله بالعذاب فبشره بعذاب أليم. Donc le cheikh, il explique que on a expliqué maintenant on a expliqué dans les versets, dans les vers de poésie précédents au sujet de la musique et des instruments de musique. On a parlé des instruments de musique et ce qui est relié aux instruments de musique, des péchés qui l'accompagnent. Parce qu'en général, les gens, quand ils sont dans un endroit où il y a de la musique, eh bien, il y a beaucoup d'autres péchés qui accompagnent cette chose-là. Parce que regardez, par exemple, dans les bars, les discothèques ou les endroits où il y a de la musique. Les gens, ils font quoi? Ils font des péchés. Hein? Ils se réunissent pour quoi? Pour faire des péchés, subhanallah. Et dans certains milieux, c'est pire que dans d'autres. Dans certains endroits, c'est pire que d'autres. Et dans certaines musiques, c'est pire que d'autres. Dans certains contextes, c'est pire que d'autres. Allah al-musta'an. Des fois, dans certaines traditions, certaines cultures, Yani, leur danse, c'est presque, on dirait, de l'obscénité. Hein? C'est de l'obscénité directe. Obscénité. Obscène, quelque chose qui ressemble à de la débauche, qui ressemble à de la perversité. À la kulli hal, le cheikh, il dit, en ce qui concerne le chant, maintenant il va parler du jugement à propos du chant, il dit qu'il y en a des hanabila, c'est-à-dire il y a des savants du madhhab al-hanbali, ils ont trois positions, ils ont mentionné trois positions à propos du chant. D'accord? La première position qu'ils ont mentionnée, ceux qui disent que c'est complètement haram. Ça, c'est la première position. Eux, cette catégorie, ces savants-là, eux, ils disent c'est complètement haram. Parce que ça rentre dans Allahu. Allahu. Allahu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire la distraction, le divertissement, les choses futiles. D'accord? Et c'est quelque chose qui va distraire les gens et les éloigner du rappel d'Allah. Et ils se basent pour interdire ça sur le verset 6 dans Sourate Luqman. Donc, je vais vous lire la traduction de ce verset. Non. Donc, c'est le verset 6 dans Sourate Luqman. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, ou bien on va lire le verset au complet. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. أي نعم سبحان الله. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset ce qui signifie et parmi les hommes il y en a qui dénués de science achètent de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant, un châtiment humiliant. Donc, le terme qui est employé dans ce hadith, c'est lahwa al-hadith. Donc, yani, des paroles futiles, hein, des propos futiles. Et ça a été expliqué par les ulama, parmi les salafs, les sahaba, les tabi'in qui ont expliqué le Coran comme étant les chants. Hein, la chanson et les chants. Et il y en a parmi les gens qui prennent les chants justement comme une alternative au Coran pour yani, se distraire. Et ils recherchent yani, du plaisir là-dedans en écoutant de la musique et ils sont distraits par ces choses-là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala les a menacés d'un châtiment. Hein? Et la musique et les chants, yani ça donne une atmosphère dans les places où tu vas. Si tu trouves qu'il n'y a pas de musique, c'est pas la même atmosphère que quand il y a de la musique. C'est pour ça que les koufars, par exemple, quand c'est le temps des fêtes, comme maintenant, tu vas dans les magasins, ils mettent les musiques de Noël. Pourquoi? Pour que les gens soient dans l'atmosphère de Noël. Hein? Et donc, ils vont être plus joyeux, plus. Hein, ils vont penser à acheter plus de choses. Ils ont envie de dépenser plus d'argent, et ainsi de suite. Et sinon, il y en a dans d'autres contextes. Il y en a. Tu regardes, par exemple, les koufats, ils font un film, ils mettent toujours de la musique dans le film. C'est rare que tu vas jamais voir un film qui n'a pas de musique dedans. Même un film d'horreur, hein, quand les koufars font des films d'horreur, dans les scènes où il y a des choses qui vont être très épeurantes, ils mettent toujours une musique qui accompagne la scène pour montrer qu'il y a quelque chose de dangereux qui va arriver. Donc ça veut dire en réalité que la musique, ça a un lien sur les émotions, ça a un lien sur les sentiments. Hein, ça a un effet sur ça. J'avais lu dans un livre justement des ulama qui expliquaient l'interdiction de la musique et disaient comment certains ils savaient comment manipuler les émotions des gens juste avec de la musique. Ils pouvaient jouer certains sons et les gens commençaient à pleurer. Il faisait jouer certains sons et les gens commençaient à rire. Hein? Et ainsi de suite. Donc, c'est pour dire comment ça, c'est en réalité quelque chose que les koufars utilisent ça. Et même, ça vient du shaitan en réalité. C'est pour vraiment jouer avec les gens puis manipuler. Et il y a des gens, Allah Musta'an, yani, ils sont accrochés à la musique et au chant. Et dans certains types de musique, par exemple, des gens qui sont toujours déprimés, hein, tristes, malheureux. Surtout les koufars, par exemple, des femmes quand elles sont dans une peine d'amour ou des choses comme ça, ou même des hommes. Ils vont écouter des musiques sentimentales, des musiques tristes. Hein? Et il y en a, à cause de ça, des fois, ils vont même jusqu'à se suicider, Annie. Donc, c'est ça. Ça touche les émotions, ça touche les sentiments. Et donc, c'est pour ça que, yani, il faut vraiment s'écarter de ces choses-là aussi. Parce que, justement, ça c'est une preuve supplémentaire qui montre le danger et le mal qu'il y a là-dedans. C'est le shaitan qui joue avec les sentiments et les émotions des gens à propos de ces choses-là. نعم فبشره بعذاب أليم. Allah les a menacés d'un châtiment avilissant. نعم. Donc ceux qui disent parmi les ulama que le chant c'est haram de façon absolue, ils ont mentionné ça comme preuve. Et il y a d'autres arguments aussi, mais le cheikh il n'a pas mentionné toutes les preuves. À la kulli hal, on va voir la deuxième position maintenant. Parce qu'il dit إباحته لا كرهه وأباحه الإمام أبو يعلى مع الكره فأنشدي. Donc la deuxième position c'est أنه مباح من غير كراهة كما هو قول أبوي بكر. يعني المراد بهما يعني أبو بكر الخلال صاحب الجامع المشهور وهو الذي جمع مسائل الإمام أحمد وفتاواه في مجموع ضخم يقال له جامع الخلال إلا أنه ضاع ولا يوجد منه إلا قطعة يسيرة ولو وجد لكان فيه علم غزير لكن لعل الله أن ييسره ويرده ليستفاد منه وكذلك تلميذه أبو بكر عبد السلام المسمى بغلام الخلال وهو تلميذه الخاص ولذلك سمي غلام الخلال بأنه مملوك له من شدة ملازمته له وأخذه عنه فأبو بكر الخلال وأبو بكر غلام الخلال قال بأنه مباح من غير كراهة. Donc ici, le cheikh, il dit qu'il y a d'autres ulama du madhab qui ont dit que c'était permis sans que ce soit détestable du tout. Et c'est des paroles qui sont rapportées par les deux Abu Bakr, deux savants qui s'appelaient Abu Bakr. Le premier, c'est Abu Bakr al-Khalal, qui était un des compagnons de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et c'est lui qui a même le recueil des différentes paroles et des différentes positions de l'imam Ahmad. Il les a rassemblées et réunies dans un recueil énorme. Et on l'appelle Jami' al-Khalal. Al-Khalal, c'est un livre qui est connu et célèbre. Sauf que on n'a retrouvé qu'une partie de ce livre-là aujourd'hui. Il y a une partie justement qui a été publiée. Mais sinon, il est beaucoup plus grand que ça à l'origine, mais il a été perdu. Ça fait partie des trésors perdus, si on veut. Donc le cheikh, il dit, il y a dedans une grande science. Si Allah nous facilite de le retrouver, eh bien, on pourra en profiter. Parce qu'il y a des livres comme ça qui sont en manuscrit dans des librairies, dans différents endroits dans le monde, et des fois, c'est des livres qui sont empilés dans des endroits, on ne sait même pas où ils sont. Puis tout d'un coup, un jour comme ça, les gens, ils rentrent dans ces bibliothèques ou dans ces librairies. Ils cherchent dans les manuscrits, puis par hasard comme ça, ils tombent sur ces livres-là. Des trésors qui étaient cachés, on ne savait pas où ils étaient. Puis là, des fois même, ils étaient peut-être, on les avait confondus à d'autres choses. Puis finalement, un des savants ou des étudiants, ils vont prendre le manuscrit, vont commencer à le lire, à l'étudier. Et puis ils vont dire finalement, oui, ça c'était le livre d'Al-Khalal, ou c'était le livre d'Ibn Taymiyyah, ou c'était le livre d'un autre savant. Hein? Fait que là, ils vont le vérifier, le corriger, puis le publier par la suite en se basant sur ces manuscrits-là. Donc ça, c'est un exemple des livres qui sont perdus actuellement. Et le cheikh, il dit... Attends, il y avait un cheikh, je pense que c'était le cheikh c'était Al-Ansari, c'est ça. Mais son prénom, j'ai oublié maintenant. Mais c'était un des ulama de Médine, mais un des ulama du hadith. À l'origine, il venait du Mali. Hein, et il a fait la hijra en Arabie. Et il est décédé, rahimahullah. Et ce grand cheikh Al-Ansari, il avait un livre, il avait un calepin dans lequel il avait écrit des titres de livres. Et il a nommé ce calepin-là. C'est comme le sens du livre, parce que je ne me rappelle plus le titre exact, mais ça disait As-Sa'il al-Lu'ab, Kitab, yani Qa'imat al-Kutub As-Sa'il al-Lu'ab, ou quelque chose comme ça, en voulant dire ça c'est la liste des livres qui font couler la bave qui font couler la bave, parce que c'est-à-dire qu'il désirait avoir ces livres-là, mais on ne les trouve pas. D'accord? C'est en voulant dire, ça met l'eau à la bouche. C'est des livres qu'on aimerait trouver. Alors, parce que, en tout cas, c'est une longue histoire, je ne vais pas raconter tout ça, mais c'est juste pour vous dire, Yanni, qu'il y a des manuscrits comme ça qui sont perdus, et quand des ulama les retrouvent, c'est comme si, pour eux, c'est un jour de... C'est un grand jour pour eux. Ils sont très heureux de ça parce que c'est des trésors, hein, de science. Après, il dit que Al-Khalal, Abu Bakr Al-Khalal, il avait un élève qui s'appelle Abu Bakr Abdul Aziz. Et on l'appelait Ghulam Al-Khalal. C'est-à-dire, Ghulam, c'est souvent un terme qu'on utilise pour dire, par exemple, quand quelqu'un est un esclave, un garçon. Un esclave, on l'appelle Ghulam. Parce que c'est son servant ou son esclave. Donc lui, ce cheikh, Abu Bakr, Abdul Aziz, on l'appelait Ghulam al-Khalal, tellement qu'il était avec le cheikh Abu Bakr al-Khalal, qu'ils l'ont appelé Ghulam al-Khalal. Comme si c'était son esclave, à quel point il était tout le temps en sa compagnie, en train d'étudier avec lui. Et lui aussi, il a un livre, et dans ce livre-là, il a expliqué que c'était permis les chants et que ce n'était pas détestable. Al-Qawl al-Thalith, la troisième position, Ma dhahaba ilayhi al-imam Abu Ya'la, Sheikh al-Madhab, ila annahu makruh, karahata tanzih, wa hadha kulluhu fil ghina al-mujarrad. الذي هو مجرد صوت فقط أما إذا كان معه آلات لهو ومزامير أو كان يشتمل على المجون والتشبيب بالنساء كما هو الموجود الآن في الإذاعات عند المطربين فهذا لا أحد يقول بإباحته ممن يعتدى بقوله فهو محرم وكذلك إذا كان فيه هجاء يعني ذم لأحد من المسلمين أو فيه مدح كاذب فلا شك أنه في هذه الأحوال محرم عند الجميع فإذا كان فيه تطريب ووصف للنساء والخدود والقدود والعشق والغرام كما هو الموجود الآن في الإذاعات عند المطربين والمطربات هذا لا شك في تحريمه لما يشتمل عليه من الشر العظيم والفتنة الكبيرة. وللإمام ابن القيم كتاب اسمه السماع الكبير قد طبع، وكذلك لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية فتاوى في هذا الموضوع في مجموع الفتاوى في حكم الغناء، وذكره أيضا ابن القيم في إغاثة اللهفان في باب خاص. لا شك أن هذا النوع حرام لما يشتمل عليه من المنكرات. Donc ici le cheikh il explique que la troisième position c'est la position qui a été mentionnée par l'imam Abu Ya'la al-Hanbali, cheikh al-Madhhab, c'est le cheikh du Madhhab al-Hanbali. Et il a écrit, je pense que c'est lui l'auteur du livre Tabaqat al-Hanabila, c'est-à-dire le livre de tous les différents ulama du Madhhab. Et lui, il dit que c'est makruh, que c'est détestable. Non pas interdit, mais détestable. Et le cheikh, il dit que tout ce qu'on a dit maintenant à propos de ces trois positions-là, ce qui est haram, ce qui est mubah, permis, et ce qui est ceux qui ont dit que c'était makro. Ça veut dire, ça, le cheikh, il clarifie un point important. Il dit ça, c'est seulement lorsqu'on parle seulement de la voix, seulement la voix. Ça veut dire juste quelqu'un qui chante. D'accord? Donc, quand les ulama, ils disent par exemple que certains ulama ont dit que c'était permis le chant, c'est juste quand il s'agit d'un chant que quelqu'un fait par exemple, sans que ce soit accompagné de musique. Donc ça c'est premièrement, il n'y a pas de musique. Deuxièmement, il n'y a rien de parole de haram dedans. Il n'y a rien de choses mauvaises dedans. C'est des paroles simples, innocentes, et des choses comme par exemple une femme qui chante une comptine à son bébé pour le faire dormir, ou des choses comme ça. Dans ce sens-là, si, tant que dans les paroles il n'y a rien de haram, dans ce cas-là, ce n'est pas interdit. Ou quand les femmes elles se réunissent pour faire le mariage, par exemple, quand il y a le walima, la fête du mariage, puis qu'elles vont taper le dof, elles vont chanter des paroles qui sont des choses traditionnelles que les femmes vont dire, par exemple, qui sont reliées au mariage. Il n'y a pas de paroles haram dedans, il n'y a pas de choses qui appellent au péché dedans, et il n'y a pas de kofre ou de shirk dedans. Donc, c'est des paroles, simples. Et en même temps, ce n'est pas des chanteuses professionnelles, là, comme on voit maintenant des gens qui vivent de la chanson ou du chant, là, ou des choses comme ça. Parce que là, ça devient une fitna. Et aussi, le cheikh, il mentionne ça parce que il dit, c'est ça qui est, c'est la musique, la chanson sans musique. Et il y en a qui est juste faite avec la voix. Aussi, aujourd'hui, qu'est-ce que les chanteurs, ils ont inventé? C'est l'autotune. Autotune. Vous avez entendu parler de autotune? Maintenant, tout le monde chante avec ça. Tous les gens qui ne savent pas chanter, ils utilisent autotune. Autotune, qu'est-ce que ça fait? C'est que si quelqu'un il chante, même s'il ne sait pas chanter, ça redresse sa voix pour donner une mélodie à sa voix. Ça veut dire que même s'il ne chante pas, même s'il parle, juste parler normal, ça sort comme une chanson. Subhanallah. Donc ça devient une fitna. Ça devient une fitna. À la kulli hal, le cheikh, il dit, s'il y a des instruments de musique avec, ça devient haram. S'il y a des paroles dans lesquelles il y a de l'obscénité ou de la perversité, ou bien la description des femmes et des charmes des femmes, comme par exemple, il dit, le cheikh, il dit, c'est ça qu'on entend aujourd'hui dans la radio, de la part des chanteuses et des chanteuses, et des chanteurs. Ils décrivent, ils parlent d'amour, ils parlent de femmes, ils parlent d'hommes, ils parlent de trucs comme ça, là, d'amoureux ou de je ne sais pas quoi. Surtout les chansons arabes, il n'y a pas une phrase qu'il n'y a pas Habibi dedans. J'ai jamais compris, yani, pourquoi il répète Habibi à chaque bout, à chaque deux phrases. Et je me rappelle une fois quand j'étais plus jeune, j'étais étudiant à Médine et j'avais fait le voyage de la Jordanie, de Médine jusqu'à la Jordanie en bus, voyageur là. Et pendant 14 heures, hein, pendant 14 heures sans arrêt, ils ont cassé, hein, la tête des gens avec cette musique. C'est un bus, un bus, comment on appelle ça? Un bus, comme les bus comment on appelle là? Autocar, c'est ça. Donc, de Médine, j'ai pris le bus jusqu'en Jordanie et tout le long, en plus, le pire, c'est que derrière moi, il y avait des jeunes qui fumaient, yani, subhanallah. En plus, moi, je ne pouvais même pas respirer. C'est vrai. Personne, il n'y a pas un endroit sur Terre où les gens ne font pas de péché, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé, ça ne va jamais exister non plus. Mais sauf que c'est clair que si tu vas comparer Médine, Montréal, New York, Paris, il y a une différence. Hein? Il y a une différence. Mais tu peux pas penser que les gens là-bas sont parfaits. Que les gens, qu'il n'y a pas de musique, qu'il n'y a pas de péché, qu'il n'y a pas de cigarette. Oui, il y en a. Il y en a, c'est vrai. Mais c'est pour ça. Bon, j'ai été voir le conducteur du bus. Je lui ai dit, est-ce que tu peux enlever la musique? Il ne m'a pas écouté. Hein? Donc, j'étais là, j'étais dans l'autobus, je n'avais pas le choix. Et j'ai dit au jeune garçon qui était derrière moi, qui fumait, hein, avec mon arabe classique, je lui ai dit, Yani afwan, ana la astati'u an atanafas. Il commence à se moquer de moi. Il dit, oh, voilà, yastati an yatanafas. comme si je parle. Pour eux, là, c'est comme si je parle comme. Oui, je parle trop bien, là. Même, je me rappelle, il y avait un chauffeur qui disait, Tu ne parles pas le dialecte, notre langage arabe, comme on parle nous? Désolé, je comprends qu'est-ce que vous dites, mais je ne peux pas vous parler, je ne sais pas vous répondre comme ça. Donc, à la koulihal, tout ça pour dire que quand j'étais assis, il y avait un jeune à côté de moi, un jeune Syrien, et je lui ai dit, mais. Je comprends pas qu'est-ce qu'elle raconte dans cette chanson-là. Qu'est-ce qu'ils disent? Elle me dit, elle aime le pharmacien. J'ai dit, c'est quoi cette stupidité-là? À la kulli hal, j'entendais Saïdali, puis je comprenais pas de pourquoi, qu'est-ce qu'elle racontait. Puis après, j'ai dit, mais je comprends pas qu'est-ce qu'elle raconte dans cette chanson. Elle me dit, oh, elle dit qu'elle aime le pharmacien. Elle est amoureuse du pharmacien. Donc, tout ça, c'est des exemples, tu vois, des bêtises et des choses que les gens racontent dans leurs chansons, toutes des choses que les gens appellent, on appelle al-ishq. Al-ishq, c'est-à-dire l'amour passionnel, yani, entre l'homme et la femme, ou des choses de ce genre. La description de la beauté de la femme, de ses charmes, ou des choses de ce genre. Tout ça rend les chants haram. Si c'est des paroles de ce genre, ça devient haram. Ou bien si c'est des paroles dans lesquelles il y a, qu'est-ce qu'on appelle en arabe, al-hija. Al-hija, c'est quoi? C'est comme le fait de vouloir dénigrer quelqu'un ou blâmer quelqu'un, mais en chanson ou en poème. Les Arabes, ils faisaient beaucoup ça. Pour attaquer quelqu'un, ils lui faisaient un poème sur lui, puis ils disaient dans ce poème-là tous ses défauts, puis. Ces affaires, des affaires mauvaises pour le rabaisser. Un peu comme dans le rap aujourd'hui, comme quand les rappeurs s'insultent les uns les autres. Ou quand tu vois les battles qu'ils font, comment on appelle ça, les compétitions de freestyle, le rap, comment quand ils rappent. Hein? Donc ça existe depuis très 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 longtemps là, ces choses-là. Même à l'époque de la Jahiliya, les Arabes ils faisaient ça. Mais ça c'est pas permis si c'est pour rabaisser un musulman ou dire du mal d'un musulman. Ou bien le contraire aussi. Al-madh al-kadhib. C'est-à-dire tu vas glorifier quelqu'un, mais de façon exagérée et mensongère. Hein? Tu dis sur quelqu'un des choses trop bonnes qui ne sont même pas vraies. Tu dis, oh, il est comme ci, et il est comme ça, et il est comme ci. Et il y a des poètes qui étaient bons dans ça. Hein? Et pour avoir des faveurs, ou bien pour avoir quelque chose de la part des gens qui étaient riches ou puissants, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à les glorifier. Et tu vois ça, par exemple, dans certains pays, même en Afrique, tu vois, quand il y a les mariages. Il y a par exemple au Sénégal, il y a les griots là. Et eux, c'est ça leur travail. Ils vont dans les mariages, les célébrations, et là, ils commencent à chanter, et ils parlent de toutes les choses de la famille, de la personne, et ils commencent à le glorifier, puis à dire des choses sur eux. Peut-être même c'est des mensonges. Hein? Toi, tu es un grand, tu es de la famille d'un grand, tu es de ci, tu es de ça, comme ça. Et là, les autres, la famille, ils viennent avec un sac avec de l'argent. Et là, plus ils disent des choses, plus ils jettent. Mais oui, c'est ça. Ils font ça dans plusieurs pays, dans plusieurs cultures. Mais ça, c'est des trucs traditionnels, la chaise, là, que tu dis. Mais c'est pas ça le problème. C'est plus le fait de glorifier des gens, hein, dans le. Qu'est-ce qui est faux, d'exagérer dans la glorification. Donc le cheikh, il dit ça rend les choses haram. Et il dit, naam, donc si c'est aussi des chanteuses ou des chanteurs qui font vibrer leur voix trop, comme si ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent, et puis, yani, c'est comme il y en a qui font ça même dans l'adhan. Ils font l'adhan exagéré. Ils chantent dans l'adhan même. Yani, quand ils font l'adhan. Et puis ça dure comme ça pendant yani, plusieurs secondes. Jusqu'à même faire déformer le sens des mots. Et là, dans ce cas-là, c'est pas permis de faire l'adhan de cette façon-là. Et il y en a qui pensent que c'est bien de le faire comme ça parce que ils ont des cassettes ou des enregistrements. Des muaddinines célèbres parmi les récitateurs, et ils ont fait des adhans comme ça avec des belles voix, mais souvent, ça, c'est des adhans qui sont contraires à la sunna. À la kulli hal, tout ça, c'est des exemples, la description des femmes, les paroles d'amour, des trucs comme ça, de passion et des choses de ce genre. Il dit le cheikh, comme qu'est-ce qu'il y a dans les radios aujourd'hui, des chanteurs et des chanteuses, il dit, il n'y a pas de doute que ça, c'est haram, à cause de ce que ça contient comme mal et comme grande fitna. Et il dit que l'imam Ibn al-Qayyim, il a un livre qui s'appelle As-Sama' al-Kabir, qui a été publié, de même que son élève, son cheikh Ibn Taymiyyah, il a dans Majmu' al-Fatawa un livre sur le jugement ou le verdict de la musique. Et Ibn al-Qayyim, il l'a mentionné également dans son livre « Irathatul Lahfan ». Et il y a un chapitre sur la musique dedans, dans lequel il mentionne cette chose-là qui est haram. Ces choses-là qui sont haram et justement qui contient beaucoup de choses mauvaises dedans. Ensuite, le cheikh, il dit « فَمَنْ يَشْتَهِرْ فِيهِ وَيُكْثِرْ وَيَتَّخِذْ لَهُ ۖ قينة لم يعتبر مع الشهد. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? فمن يشتهر فيه ويكثر ويتخذ له قينة لم يعتبر مع الشهد. C'est-à-dire, si quelqu'un devient célèbre dans ces choses-là, puis qu'il le fait tout le temps, et qu'il prend ça comme genre de métier, la musique, les chants, alors, il ne va pas être considéré comme un témoin valable. Un témoin valable, par exemple, au tribunal. Si quelqu'un il a un problème, il a besoin d'un témoin. Lui, son témoignage ne sera pas accepté parce que ce n'est pas considéré comme quelqu'un qui est pieux s'il fait ça. Et le cheikh Al-Fawzan il explique, il dit « Wa hadha al-khilaf fi haqqi man lam yudawim alayhi. Amma man yudawim alayhi wa 'urifa bihi wa sara hirfatan lahu fa hadha yufassiqunahu wa la yaqbaluna shahadatahu. » Donc c'est ça. Il dit à propos de la personne, le jugement qu'on a mentionné de la divergence entre les ulama, est-ce que c'est haram ou est-ce que c'est makruh, ou est-ce que c'est mubah? Ça, c'est seulement à propos de la personne qui n'a pas fait ça de façon persistante. Mais si quelqu'un commence à le faire tout le temps, jusqu'à ce qu'il devienne célèbre dans ça, hein, c'est comme par exemple, je ne sais pas moi, le garçon ou la fille qui chante en prenant sa douche, hein, ou bien quand il fait la vaisselle, elle chante dans sa maison, ça c'est une chose. Mais si tu commences à enregistrer ça, tu mets ça sur YouTube, après tu commences à avoir des likes, hein, les gens commencent à aimer ça, puis après ça tu commences à dire, bah, les gens ils aiment, je veux faire ça plus. Là tu commences à en faire 2, 3, 4, 5, après tu commences à être populaire. Et il y a des gens maintenant, comme ça ils sont devenus des vedettes, hein, à cause de ça. Et là maintenant ils sont tombés dans ce gouffre, hein. Et même, il y en a des filles qui ont commencé à faire ça, qui ont des foulards, qui portent des foulards, soi-disant islamiques, et qui sont devenues des chanteuses maintenant à cause de cette fitna. À cause de cette fitna. Et il y a des hommes maintenant, même des hommes qui font des chants qu'ils appellent des chants islamiques. Qu'est-ce qu'ils appellent les anachides et tout ça, là, hein? Et ils en ont fait une catégorie. Ils ont dit, ça, c'est les chants islamiques. Ça veut dire, hein, c'est pas haram pour eux. Ils pensent que ça veut dire que c'est pas haram. Pourquoi? Parce que dedans, ils parlent, hein, ils disent Allah, ils disent des mots qui ont rapport avec la religion. Donc, ils s'imaginent qu'à cause de ça, ça devient halal. Sauf que, au début, c'était juste la voix. Et après, ils ont rajouté de plus en plus des effets. Des effets sonores. Ils ont mis des canons dedans. Vous savez c'est quoi les canons? C'est quand plusieurs personnes chantent la même chanson, mais à des notes différentes, hein, à des tons différents. Comme par exemple, bon, je ne connais pas le solfège là, mais c'est pour vous dire, il y en a qui vont chanter en do, puis l'autre ils chantent en ré, puis l'autre ils chantent en fa. En même temps, ça fait comme un effet de sonore. Et même s'il n'y a pas d'instrument de musique, c'est comme si leur voix était un instrument de musique, hein? Ou bien il y en a qui commence la chanson, puis quand il a sauté par exemple un ou deux bars, l'autre il commence la chanson lui aussi à son tour. Donc ça fait comme un genre de décalage, mais ils se suivent, tu vois. Ou bien il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils ont rajouté de la musique. Et une fois, je me rappelle, il y avait une radio à Montréal, à un moment donné, ils faisaient des émissions soi-disant religieuses. Et ils invitaient des gens pour parler. Puis, entre les pauses, hein, entre les paroles, ils mettaient une pause musicale. Donc, ils mettaient des anachides. Et franchement, certains des trucs, j'ai entendu une fois qu'est-ce qu'ils avaient mis. Et je ne pouvais pas savoir si c'était Michael Jackson ou bien si c'était un truc d'anachide. Parce que leur chanson, maintenant, c'est la même chose que qu'est-ce que les musiciens, les koufars, ils font comme musique populaire. C'est exactement la même chose. Mais la seule chose, c'est qu'ils l'appellent islamique. Avec les instruments, avec la musique et tout. Ils font des spectacles même. Et quand ils font les Ikhwan, ils font leur grande convention là, chaque année, aux États-Unis et à Toronto, ils font des grosses conventions comme ça. Et bien, même en France, ils font. En France, il y avait un truc qui s'appelait le Bourget aussi. C'est à peu près le même style. Ça, c'est les Ikhwan qui sont derrière ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font des spectacles de chant de certains groupes, soi-disant de chants islamiques. Et à la fin, ils font des signatures d'autographe. Hein? Les filles, elles viennent pour se faire signer leur photo de ces chanteurs soi-disant islamiques. Donc, ça devient comme une blague en réalité. Ça devient quelque chose vraiment clairement haram. Et il y a des filles aussi qui font ces trucs-là. Et même, ils font maintenant du rap islamique. Hein? Le rap islamique. Donc, tout ça pour dire que il y a aussi, qu'est-ce qu'ils appellent le slam. Le slam, c'est comme de la poésie, il n'y a pas de musique. C'est des paroles. Mais aussi, quand tu écoutes qu'est-ce qu'ils racontent comme paroles dans ces slams, beaucoup d'entre eux, c'est des paroles stupides qu'ils disent n'importe quoi ou bien ils vont juste dénoncer certaines choses ou parler de certains sujets d'une manière. Yani, ça serait beaucoup plus simple de le dire juste dans un texte normal. Tu expliques qu'est-ce que tu veux dire, pourquoi tu es obligé de faire des rimes et de te casser la tête à vouloir parler avec toutes tes. Comme ils font un peu, c'est un peu théâtral, hein? Ils vont essayer de mimer ça. À la koulihal. C'est ça. Il y en a des gens, ils veulent imiter tout ce que les koufars font. Quand ils voient les koufars faire quelque chose, ils veulent le faire. Maintenant, ça y est. Ils commencent à faire toutes sortes de choses. Et le pire, c'est qu'ils veulent rentrer l'islam là-dedans. Hein? Alors que l'islam est innocent de ça. Donc, le cheikh, il dit, si quelqu'un devient connu pour ça, puis que ça devient son métier, hein, alors les ulama, ils le considèrent fasiq. Ils ne vont pas accepter son témoignage après ça. Non. On va expliquer un autre vers, puis on s'arrête. ولا بأس بالشعر المباح وحفظه وصنعته من ذم ذلك يعتدي فقد سمع المختار شعر صاحبه وتشبيبهم من غير تعيين خردي اوكي qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a pas de mal. Il dit ولا بأس بالشعر المباح وحفظه. Il y a pas de mal de la poésie qui est licite, qui est permise, et de la mémoriser. وَصَنْعَتِهِ De même que de faire des poèmes qui ne mentionnent rien de haram, il dit, et celui qui est contre ça ou qui blâme ça, il transgresse, il a transgressé. Ou bien celui qui blâme, qui attaque les gens dans ses poèmes, peut-être dans ce sens-là, là, il transgresse. شيخ الفوزان يليكسبليك يدي الشعر النزيه المفيد لا بأس به وهو الذي يشتمل على اللغة العربية وعلى الأمثال والحكم والفوائد وقد قال صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرة يعني وكان يستمع إلى الشعراء وكان استمع إلى حسان واستمع إلى كعب بن زهير واستمع للخنساء وكان يستمع إلى الشعر الجيد ويقول إن من الشعر لحكمة وهو الشعر الذي فيه فائدة إما من ناحية اللغة كالشعر الجاهلي الذي فيه ضبط اللغة أو فيه حكم أو فيه تاريخ الوقائع فلا بأس به ولا بأس من أن يكون الإنسان شاعرا ولا بأس أن يستمع ولا بأس أن يحفظ فالذي ليس عنده حفظ من الأشعار الجيدة لا يكون عنده قدرة ولا وملكة على الكلام وعلى الشواهد وعلى اللغة وكان الأئمة يحفظون الأشعار الكثيرة ويحفظون عشرات الآلاف من الأبيات من الشعر العرب الجيد Donc le cheikh il dit le poème qui est propre, qui est bénéfique, il n'y a pas de mal à ça, c'est-à-dire les poèmes dans lesquels il y a des choses bénéfiques pour la langue arabe, dans lequel il y a des proverbes ou des paraboles, des choses bénéfiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui est rapporté par Abu Daoud et également Al-Bukhari l'a rapporté aussi. Il dit, la deuxième partie du hadith, elle est rapportée par Al-Bukhari, « Inna min ash-shi'r la hikma » c'est-à-dire dans certaines formes de poèmes, il y a de la sagesse. Et il a dit « Inna min al-bayan la sihra » et certaines formes d'expression ou de clarification ou d'explication sont une forme de sorcellerie. Il y en a qui, la façon quand ils parlent, c'est presque magique ou envoûtant, hein, comment ils parlent. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh il dit, il entendait des poèmes. Il y avait même un poète parmi les poètes musulmans, Hassan ibn Thabit. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Quand les mushrikines faisaient des poèmes contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et contre l'islam, eh bien, lui, Hassan, il écrivait des poèmes pour réfuter les mushrikines et les kuffars, et pour défendre l'islam, et pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la religion d'Allah. Donc c'était Hassan ibn Thabit. Et aussi Ka'b ibn Zuhair, et d'autres également qu'il a entendu comme Al-Khansa. Et il dit que il écoutait donc les bons poèmes, il disait, dans la poésie, il y a une sagesse. Donc ça, c'est le poème dans lequel il y a un bienfait, il y a quelque chose de bénéfique. Sur le plan de la langue arabe, comme par exemple, les savants, ils récitent souvent, comme exemple, les poèmes de la période pré-islamique. Pourquoi? Parce que dans ces poèmes de la période pré-islamique, il y a des éléments qui établissent des règles par rapport à la langue arabe et pour connaître justement la signification des mots ou bien l'utilisation de certains termes ou bien l'application de certaines règles de grammaire et des choses de ce genre. Donc quand tu vas étudier la grammaire, beaucoup de savants, ils vont citer des poèmes ou des vers de poésie pré-islamique justement pour établir la preuve de certaines règles dans la grammaire. Donc, il est important donc de connaître certaines de ces règles-là, et il dit, et de mémoriser donc ces poèmes-là, il n'y a pas de mal à ça, et il dit que même que si quelqu'un n'a pas mémorisé quelque chose de ces bons poèmes-là, eh bien, il n'aura pas de maîtrise de la langue arabe, hein, s'il ne connaît pas les vers et les poésies dans lesquelles il y a justement les références par rapport aux règles de grammaire et ainsi de suite. Et il y a des imams de la religion, ils mémorisaient des milliers de vers, yani de vers de poésie au sujet de la langue arabe. Et c'est des poèmes dans lesquels il y a soit des règles de langue arabe, soit des paraboles ou des proverbes, soit des événements historiques qui se sont produits, qui ont été versifiés, et ainsi de suite. Donc ça, il n'y a pas de mal à ça. Et il dit, « Wa amma shi'r al-muharram, kal-hija wal-madh al-kadhib, hada la yastajidunahu, wa la yarghabuna fih, wa ash-shi'r al-majin alladhi fihi al-ghazal wal-mujun, hada la yastajidunahu, wa la yastami'una ilayhi. وإنما الغزل الخفيف الذي ليس فيه فتنة كالشعراء يبدأون قصائدهم بالتغزل البريء الذي ليس فيه فتنة فهذا شيء يتخذونه تحسينا للشعر أو للقصيدة ثم يدخلون على الموضوع الذي يريدونه مثل لامية كعب بن زهير يعني وقد بدأها بشيء من الغزل واستمع إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وليس فيه محذور. Donc il dit le cheikh que tandis que le poème qui est haram, c'est le poème dans lequel il y a des attaques contre les personnes et des insultes ou des dénigrements contre des musulmans, ou bien la glorification mensongère de quelqu'un. Il dit donc ça, ce ne sont pas des choses qui sont bonnes. Ce n'est pas des choses qu'il faut écouter. De même que les poèmes pervers, dans lesquels il y a des descriptions des femmes ou des paroles au sujet de il y a les relations entre l'homme et la femme et des choses de ce genre. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas pudiques ou dans lesquelles il y a des choses obscènes. Donc ça, il ne l'écoute pas. Il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas permettre ça. Il dit la seule chose qu'il permet, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-razal al-khafif. Et il explique qu'est-ce que ça veut dire. Il dit c'est que dans la tradition des Arabes, dans la poésie, quand ils parlent d'un sujet, ils vont toujours commencer par quelques vers au début, comme une introduction d'un sujet. Il commence par une forme de razal. Le razal, c'est quoi? C'est quand quelqu'un, il fait un poème, il parle comme s'il va parler d'amour ou comme s'il va parler d'une femme, mais sans rentrer dans les détails, puis de façon innocente. Ça, les ulama, ils l'ont toléré pour l'introduction d'un poème. C'est bien entendu à condition qu'il n'y ait pas de rien de haram qui soit mentionné. Et il le mentionne au tout début en rentrant dans le sujet. Avant de rentrer dans le sujet, il mentionne quelque chose sur le razal. Puis après ça, il rentre dans le poème ou le sujet qu'ils veulent mentionner. Comme Ka'b ibn Zuhair, lorsqu'il a commencé son poème, il a commencé avec un petit peu de razal, puis après ça, il a parlé d'autres sujets. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a entendu. Et il a écouté le poème et il n'y avait pas rien de mauvais dedans. Donc, même ce livre qu'on est en train de lire, Manzumat al-Adab, c'est en poésie. C'est en forme de poésie. Donc il dit فَقَدْ سَمِعَ الْمُخْتَارُ شِعْرَ صَاحِبِهِ. Bon, on va s'arrêter ici. On va lire la suite la semaine prochaine où il mentionne comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écouté le poème de certains d'entre les sahaba et qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet-là. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. يا ال dans le livre qui s'appelle النونية. Non. النونية. النونية. Il y a Nouniyat al-Imam ibn al-Qayyim. Dans le commencement de An-Nouniyya, il y a justement un exemple de Razal. Oui, c'est ça. Donc Ibn al-Qayyim, il dit dans An-Nouniyya au début, « حُكْمُ الْمَحَبَّةِ ثَابِتُ الْأَرْكَانِ وَمَا لِلصُّدُودِ بِفَسْخِ ذَاكَ يَدَانِ أَنَّ أن وقاضي الحسن نفذ حكمها فلذا أقر بذلك الخصمان. Donc ici il dit المحبة, المراد بالمحبة هنا محبة الله تعالى الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه. Donc il dit ici le jugement de l'amour, المحبة. Donc C'est ça ici, dans le début d'un poème, les Arabes, ils commencent toujours par mentionner quelque chose qui a rapport avec l'amour. Mais, bien entendu, sans que ça rentre dans rien de haram, sans que ça rentre dans rien de contraire à la religion. Ça, c'est avant de rentrer dans le sujet. Hein? Après, il commence le sujet comme ça. C'est innocent, comme on dit. Donc, à Nouni, il y a 6 000 vers, à peu près. 6 000 et plus. Et c'est des vers qui terminent toujours par la lettre Noun. C'est pour ça qu'on l'appelle Nouniya. Du début du poème jusqu'à la fin, tous les 6 000 vers, ça finit par la lettre Noun. Chaque vers. Donc c'est pour ça. Il y a d'autres poèmes qui finissent par d'autres lettres. Par exemple, il y en a certains poèmes qui terminent toutes par le lam. On les appelle lamiya. Il y en a d'autres qui finissent par ra. On l'appelle raïya. Et ainsi de suite. Mais ça, c'est certains poètes qui ont décidé de faire ça. C'est comme pour donner un style ou bien pour. Comme si pour montrer leur maîtrise de la langue. Mais c'est pas nécessaire pour que ce soit un poème que ça finisse toujours par la même lettre. Mais c'est juste certains poètes qui ont fait ça pour une raison, Allahu alam. Mais je suis pas spécialiste de poèmes ou de poésie arabe, mais c'est des choses que j'ai vues et que j'ai lues et que j'ai entendues aussi. Non, bien sûr. En tout cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Si je pouvais un jour écrire de la poésie en arabe, ça me ferait bien plaisir.